Dictator Jesus Christus.
Espoir fragile après l'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Il ne rentrera en vigueur que dimanche et les bombardements israéliens se sont poursuivis ce jeudi. Mais l'espoir est là, notamment pour les familles des otages israéliens. Témoignage ce soir d'Ange Calderon, cousin de l'un d'entre eux, au début de ce journal. La Syrie, elle, panse ses plaies après près de 14 ans de guerre civile. Les enfants ont payé un très lourd tribut au conflit. Reportage à suivre dans un orphelinat de Damas, la capitale. Dans ce journal également, la Roumanie, désormais fixée sur l'élection présidentielle. Elle aura lieu au mois de mai prochain. Et puis nous reviendrons sur ce pacte social pour la paix dans la région des Grands Lacs proposé par les églises catholiques et protestantes de la République démocratique du Congo.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir. L'espoir est revenu au Proche-Orient hier soir après l'annonce d'un accord de trêve dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas. Un accord qui est une bouffée d'oxygène pour des millions de Palestiniens de l'enclave palestinienne où l'aide humanitaire doit entrer massivement. À Gaza, où 70% des bâtiments ont été détruits ou endommagés, a annoncé l'ONU ce jeudi. Cet accord de cessez-le-feu prévoit dans un premier temps le retour de 33 otages israéliens qui sera échelonné tout au long des 42 jours d'une première phase de la trêve. Il s'agit de femmes, d'enfants et d'hommes de plus de 60 ans détenus dans les tunnels du Hamas depuis le 7 octobre 2023. Parmi les noms qui figureraient sur cette liste, celle de pères de famille franco-israéliens Oad Yahalomi et Ofer Calderon, kidnappés dans le kibbutz Nir Oz. Le cousin de ce dernier avait rencontré au Vatican le pape François au mois de novembre 2023, quelques jours après la libération lors d'un premier cessez-le-feu temporaire des deux enfants d'Ofer, âgés de 12 et de 16 ans. Au micro de Radio Vatican, il nous exprime sa joie mesurée néanmoins face à l'aboutissement de cet accord. Ange Calderon.
Aujourd'hui, il s'agit d'échanger des prisonniers retenus dans les geôles israéliennes contre des otages présumés et des cadavres certains. C'est un marchandage macabre d'un degré impensable, d'un degré inhumain. Israël paye aujourd'hui un prix exorbitant de voir que on échange une vie contre 50 ou 30, ou un cadavre. C'est quelque chose qui me laisse sans voix.
Savez-vous si votre cousin Ofer Calderon figure parmi la liste des 33 otages?
Oui, normalement, en théorie, si je puis dire, suivant les critères, on emploie des mots vraiment atroces. Hein. C'est les mêmes mots que les nazis non seulement utilisaient, mais qu'ils pratiquaient. C'est quelque chose de terrifiant et terrible. Qui va sortir, qui ne va pas sortir, qui va sortir vivant, c'est quelque chose d'impensable encore une fois, cette stratégie, si l'on peut dire. En ce qui concerne Ofer, homme de plus de 50 ans et potentiellement blessé, il serait sur cette fameuse liste. Dans quel état? L'état psychologique, il n'est pas besoin d'être expert pour deviner qu'il n'est pas brillant. L'état physique, il reste en interrogation avec des points de suspension.
Ange Calderon, parent d'un des otages israéliens du Hamas, interrogé par Alexandra Sirgan. Cette trêve qui reste néanmoins très fragile, elle doit entrer en vigueur dimanche, rappelons-le. En attendant, l'armée israélienne a annoncé avoir mené aujourd'hui des attaques contre 50 cibles terroristes à Gaza. Le Hamas avertit de son côté que toute agression israélienne met les otages en danger. Ce soir, l'Égypte, l'un des pays médiateurs, appelle à mettre en œuvre sans délai cet accord de cessez-le-feu. Et puis le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, se dit confiant que cette trêve sera mise en œuvre dimanche prochain. Le Premier ministre qatari en visite à Damas ce jeudi, Mohamed Abdelrahman Al-Thani, s'est entretenu avec Ahmad Al-Sharet, le chef du HTS et nouveau dirigeant de facto du pays. Le leader qatari qui a promis l'aide de son pays pour réhabiliter les infrastructures syriennes ravagées par 14 ans de guerre. Une aide notamment dans le secteur de l'électricité, a-t-il souligné. La Syrie où les longues années de guerre ont brisé toute une génération d'enfants. Rien que dans la capitale, Damas, on dénombrerait plus de 40 000 orphelins. Des enfants qui sont pris en charge par des institutions aux moyens souvent limités dans un pays encore très fragile. Reportage dans l'orphelinat Dar al-Aman d'Inès Gilles à Damas.
L'orphelinat d'Al-Araman accueille les enfants dont le destin a été brisé par la guerre. 230 filles syriennes qui ont toutes perdu au moins un parent pendant le conflit sont accueillies par l'organisme public. Dania gère les lieux. Elle travaille depuis 11 ans dans l'orphelinat.
Ils sont 230. C'est à cause de la guerre. Avant, il y avait moins d'orphelins.
Lamar, 13 ans, est en train de suivre un cours de français. Elle est arrivée à l'orphelinat il y a 7 ans.
Mon père a été tué. Je vois ma mère les week-ends. La semaine, je dors ici.
À l'étage, l'orphelinat compte des dortoirs avec une cinquantaine de lits par pièce. Les enfants ont à manger tous les jours et peuvent étudier. Le plus difficile, selon Rana, psychologue à Dar al-Aman, est de leur parler des traumatismes qu'ils ont vécus.
C'est difficile, vraiment. J'essaie de leur parler. C'était surtout dur sous Bachar al-Assad, car ces enfants sont originaires des zones rebelles pour beaucoup. Ils avaient peur de parler. Et toutes ont perdu au moins un parent.
Avec la crise économique, les moyens des orphelinats comme Dar al-Aman sont limités. Après la chute de Bachar al-Assad, les États-Unis ont partiellement levé les sanctions internationales qui pèsent sur la Syrie pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer dans le pays. Une aubaine pour les orphelins de la capitale. Inès Gilles, à Damas, pour Radio Vatican.
L'histoire semble s'accélérer au Liban après l'élection la semaine passée d'un nouveau président de la République, après plus de 2 ans de vide institutionnel et la nomination cette semaine d'un nouveau Premier ministre. Le juge libanais chargé d'enquêter sur l'explosion du port de Beyrouth a annoncé aujourd'hui reprendre ses travaux d'enquête. Le Liban qui accueillera demain le président français Emmanuel Macron. L'atmosphère est toujours pesante en ce début d'année en Roumanie, un mois et demi après les élections législatives et présidentielles qui ont été annulées par la Cour constitutionnelle. Les Roumains le savent aujourd'hui, ils retourneront aux urnes les 4 et 18 mai prochains. Retour sur plusieurs semaines de tension avec notre correspondant à Bucarest, Alex Diagonescu.
Les surprises se sont enchaînées sur la scène politique roumaine en novembre et décembre dernier. D'abord, le premier tour des présidentielles du 24 novembre a porté en finale un candidat indépendant quasi inconnu, Călin Georgescu, ancien fonctionnaire gouvernemental au discours ultranationaliste, souverainiste et surtout pro-russe. Ensuite, le 6 décembre, alors que les Roumains de la diaspora votaient déjà, la Cour constitutionnelle a entièrement annulé les élections présidentielles à cause d'ingérence d'un acteur étatique étranger, en l'occurrence la Russie. Alors que Călin Georgescu dénonce un coup d'État et conteste l'annulation des présidentielles, le gouvernement de Bucarest annonce ce jeudi l'organisation de nouvelles élections le 4 mai pour le premier tour et le 18 mai pour le second. D'ici là, le président sortant Klaus Iohannis se voit prolonger le second mandat, provoquant l'ire des fidèles de Georgescu qui protestent contre ce qu'ils appellent un vote volé. Et la situation pourrait s'empirer puisque M. Georgescu pourrait se voir interdire la possibilité de se porter candidat en vertu de ses propos anti-Union européenne et anti-OTAN. Le précédent existe déjà. De Bucarest, Alex Diaconescu pour Radio Vatican.
Je vous en parlais dans les titres. Les églises congolaises engagées plus que jamais pour la paix et la stabilité en RDC. Hier, depuis Kinshasa, la CENCO, la conférence des évêques du pays, et les protestants de l'ECC, l'église du Christ au Congo, ont officiellement lancé un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, une charte Marine Henriot à laquelle chaque citoyen est invité à adhérer.
Oui, Olivier, les responsables catholiques et protestants congolais invitent tous les hommes de bonne volonté à considérer l'année 2025 comme une année de la paix. Paix en RDC et dans la région des Grands Lacs, c'est ce qu'on peut lire au début de ce texte. Combien de souffrances, de morts, de viols et de destructions faut-il encore avant que cela n'advienne, lancent les autorités religieuses qui dénoncent une catastrophe humanitaire aux conséquences incalculables dans leur pays. Alors ce pacte social a plusieurs objectifs. Retrouver d'abord une culture du dialogue et du consensus, fidèle aux racines culturelles de la RDC où les ancêtres se retrouvaient sous l'arbre palable, disent-ils. Ils demandent également l'union dans le respect des diversités pour, je cite, bâtir une Afrique forte, unie et prospère. Également influencer les leaders politiques africains et de la région des Grands Lacs en particulier pour adhérer à cette initiative afin d'interpeller la communauté internationale pour accompagner en toute responsabilité et sincérité les peuples africains à construire et léguer un continent où règne la justice et la paix. La CENCO et l'ECC qui proposent ainsi, suite à la proposition de ce pacte, l'organisation d'une conférence internationale pour la paix et le développement de la région des Grands Lacs. Les églises congolaises, Olivier, qui espèrent que l'adhésion à ce pacte sera massive.
Merci beaucoup Marine Henriot. Et plus d'informations à retrouver sur ce pacte social proposé par les églises congolaises sur notre site internet vaticannews.va. C'est au Congo que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, ce sera demain matin à 8h30 en direct de Rome. Je vous souhaite d'ici là une excellente soirée.